VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 25 mai 2015, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Arnold Butson. Pour commencer, les titres.
Au Burundi, partis d'opposition et groupes de la société civile suspendent le dialogue sous médiation onusienne avec le gouvernement après le meurtre d'un de leurs leaders.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso continue ses consultations avec la classe politique et la société civile dans l'optique d'une modification de la Constitution qui ouvrirait la voie à un autre mandat.
Exhumation aujourd'hui à Ouagadougou, des tombes présumées du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés lors du coup d'État de 1987.
Au Nigeria, plusieurs civils tués et de nombreuses maisons brûlées dans un raid de Boko Haram à Goubio, dans l'État de Borno.
Le chef du Pentagone reproche aux troupes irakiennes la progression récente du groupe État islamique sur le terrain.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Burundi, les partis d'opposition et groupes de la société civile qui battent campagne contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont suspendu le dialogue sous médiation onusienne avec le gouvernement. Ils ont appelé à la reprise des manifestations à partir d'aujourd'hui. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Les leaders du mouvement anti-troisième mandat ont fait part de leur décision hier à la faveur des funérailles de l'opposant Zedi Ferouzi, assassiné samedi à Bujumbura, en même temps qu'un de ses gardes-corps par des individus qui ont ensuite pris la fuite. Des milliers de personnes ont accompagné le corps de Ferouzi à travers la capitale burundaise jusqu'au cimetière musulman. Le plus urgent est de faire cesser les tueries et les assassinats organisés des leaders de l'opposition, a déclaré l'opposant Frédéric Bamvugi Nyumvira. Le porte-parole d'un autre parti d'opposition a dit de son côté qu'il ne peut pas garantir que les manifestants anti-gouvernementaux demeureront calmes. C'est un revers pour le dialogue amorcé au Burundi sous l'égide de l'envoyé spécial de l'ONU, Saïd Djinnit. Le secrétaire général de l'ONU a condamné le meurtre de Zedi Ferouzi. Ban Ki-moon a exhorté toutes les parties burundaises à éviter la violence et à œuvrer pour résoudre la crise politique dans leur pays.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso continue de consulter la classe politique et la société civile sur la vie de l'État dans l'optique d'une modification de la Constitution qui ouvrirait la voie à un autre mandat, une idée rejetée par les partis d'opposition et même certaines formations de la majorité. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint notre confrère Maurice Lemaire à Brazzaville.
Pour le moment, les consultations se poursuivent, vaille que vaille, comme les gens attendaient justement, mais bon. Il y a quand même un bémol, c'est le fait que l'opposition, appelée ici radicale, a refusé de participer à ces consultations. Du coup, on se chemine vers une décision présidentielle qui consiste à dire que, comme l'opposition ne s'entend pas, l'opposition a refusé et qu'il y a une partie de la classe politique qui a accepté de venir me rencontrer. Et comme il y a le non, donc il faut qu'on se chemine vers le référendum. Je me replie vers le peuple pour demander tout ce qu'ils veulent.
Tout porte à croire que c'est en ce moment que vont commencer les problèmes qui peuvent
engager une épreuve de force entre le pouvoir et l'opposition du Congo.
Comment les Congolais ordinaires vivent-ils cette situation?
Pour beaucoup d'observateurs, ici au Congo, ils pensent à une mascarade et ils disent « Oui, les consultations seraient bienvenues, oui, on attendait ça depuis longtemps, c'est arrivé, oui, il faut que la classe politique parle entre elles, mais ils ne s'attendent pas à vraiment de bons résultats qui peuvent satisfaire tout le monde ici. »
Le journaliste Maurice Lemaire à Brazzaville.
Au Nigeria, les islamistes du groupe armé Boko Haram ont tué plusieurs civils et brûlé de nombreuses maisons lors d'un raid à Goubio dans l'état de Borno, situé à 95 km au nord de Maïdougouri. Selon plusieurs témoins de l'armée et l'armée cités par l'AFP, les islamistes, disent-ils, ont fait irruption dans la nuit de samedi à dimanche dans Goubio à bord de camions et à moto.
Un habitant rapporte que les islamistes portaient l'uniforme et n'ont battu en retraite qu'au bout de 6 heures après l'arrivée de renforts de l'armée. Malgré des succès annoncés grâce au soutien des armées de pays voisins du Nigeria, les attaques de Boko Haram ont continué avec notamment une flambée de violence cette semaine dans l'état d'Adamawa.
Burkina Faso, c'est aujourd'hui que l'on procédera à Ouagadougou à l'exhumation des tombes présumées du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés lors du coup d'État de 1987. L'opération sera conduite par 2 médecins burkinabés en français et les familles et leurs avocats ont été invités à y assister. Maître Stanislas Benewende Sankara est l'avocat de la famille Sankara.
Il faut souligner que les missions des experts ont été définies par le juge d'instruction. Ces missions consistent à déterminer les causes de la mort du président Thomas Sankara et de ses compagnons, mais également les chercher s'il n'y a pas de projectiles ou des balles provenant par exemple d'une arme à feu qui ont pu provoquer des lésions de nature à avoir donné la mort. Les experts vont également faire des fouilles pour voir si dans les tombes on ne pourrait pas retrouver des balles ou des projectiles, à l'effet également de les mettre sous scellé et ordonner éventuellement une expertise balistique. Il y aura également la possibilité de faire des prélèvements biologiques aux fins d'ADN. Et en tout état de cause, les experts ont pour mission de faire toutes les observations pouvant concourir à la manifestation de la vérité. Donc, nous attendons que, après les exhumations, on puisse bien sûr nous donner des résultats qui peuvent aider à la manifestation de la vérité. Je précise que, conformément à notre code de procédure pénale, c'est un travail qui est contrôlé par le juge d'instruction qui a compétence pour ordonner toute expertise utile. Et donc, nous, en tant que partie civile, nous allons certainement participer en tant qu'avocat aux côtés des familles pour voir justement comment les opérations vont se dérouler.
C'était Maître Stanislas Benewende Sankara, joint à Ouagadougou.
Élections législatives sans précédent hier en Éthiopie. On s'attend à une victoire du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, du Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Selon l'Union africaine, le scrutin s'est bien déroulé, mais selon des partis d'opposition, l'élection n'a été ni juste ni libre parce que les officiels éthiopiens ont usé de tactiques autoritaires pour museler la campagne électorale et conserver leur position dominante. Il s'agissait des premières élections depuis la mort en 2012 du Premier ministre Meles Zenawi, l'ancien homme fort du pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Observatoire syrien des droits de l'homme signale que le groupe État islamique a exécuté 217 personnes, dont des enfants, dans la région orientale de Homs, depuis qu'il s'est emparé de la ville historique de Palmyre, il y a plus d'une semaine. Les médias d'État syriens parlent, eux, de 400 tués, dont des familles entières.
Selon l'ONG basée en Grande-Bretagne, il y a parmi les victimes, outre des enfants, des femmes, des infirmières et des soldats gouvernementaux. Le groupe État islamique a fait aussi plus de 600 prisonniers. Le directeur de l'Observatoire, Rami Abdelrahman, a dit à l'AFP que certains ont été décapités ou tués par balles et d'autres tués avec des couteaux. Il explique que les djihadistes accusent ceux qu'ils ont exécutés ou capturés d'être des agents du régime.
Les officiels américains rejettent sur les forces irakiennes la récente progression du groupe État islamique en Irak, alors que l'on signale la prise d'un autre poste frontière irakien, celui d'Al-Walid, par les djihadistes et l'exécution de centaines de personnes donc en Syrie. Les bombardements aériens de la coalition internationale menée par les États-Unis sont efficaces, mais rien ne peut remplacer la volonté des forces irakiennes de se battre, a déclaré Ashton Carter, le secrétaire américain à la défense, sur CNN.
Les forces militaires et paramilitaires irakiennes ont lancé une contre-offensive dans la province irakienne d'Anbar, mais Ash Carter a estimé que la chute de Ramadi, capitale de cette province, il y a une semaine, a montré que les forces irakiennes n'avaient pas la volonté de se battre face aux combattants du groupe État islamique. Elles étaient pourtant plus nombreuses, a souligné M. Carter. Mais si nous leur fournissons un entraînement, des équipements et de l'aide, j'espère que les soldats irakiens se mettront à vouloir se battre parce que c'est seulement s'ils se battent que le groupe État islamique peut être vaincu, a fait valoir M. Carter. En réaction, le président de la commission défense et sécurité du Parlement irakien, Hakim al-Zamili, a qualifié d'irréaliste et sans fondement ces déclarations.
Une cargaison d'aide humanitaire a été débarquée hier au Yémen, où de nouveaux raids de la coalition menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites ont frappé plusieurs régions, dont la capitale Sanaa. Aux Nations Unies à New York, un responsable de l'ONU a déclaré que les pourparlers de paix sur le Yémen, qui devaient débuter jeudi à Genève, avaient été reportés. Le conflit a déjà fait près de 2000 morts et forcé plus de 545 000 personnes à quitter leur foyer, selon l'ONU.
À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La compagnie minière canadienne Semafo a annoncé avoir produit 65 211 d'or et réalisé 74 millions de dollars de ventes au premier trimestre 2015, rapporte l'APA. La production est en augmentation de 86% par rapport à la même période en 2014 et la vente de 92%. Ces résultats sont principalement attribuables aux minerais à haute teneur de gisements Siou et Fofina au Burkina Faso. La compagnie se concentre actuellement sur l'étude de faisabilité du gisement aurifère de Natougou dans le sud-est du pays, au grand potentiel en or. L'exploitation des produits arachidiers au Sénégal au premier trimestre a connu une forte augmentation de près de 113% par rapport à 2014 pour la même période, rapporte l'agence de presse africaine, citant la direction de la prévision et des études économiques. En un an, ces produits sont passés de 7 400 à 15 800 tonnes et la production d'huile brute a notamment connu une progression de 60%. Reconnaître et valoriser les services de soins aux personnes fournis par les femmes dans le marché de l'emploi, c'est l'une des principales recommandations de la secrétaire générale adjointe de l'ONU, chargée de l'autonomisation des femmes Fumzile Mlambo Nchuka, citée par le journal en ligne Terra Femina. Souvent négligées dans les rapports économiques, ces activités, accomplies surtout par des femmes au plan mondial, doivent être prises en compte par cette nouvelle vision macroéconomique, a estimé l'ancienne vice-présidente sud-africaine, ajoutant que ces activités, telles qu'elles existent aujourd'hui, créent des désavantages à vie pour la plupart des femmes.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et maintenant les sports. Le sélectionneur du Congo-Brazzaville, Claude Leroy, a accusé dimanche le Ghana d'avoir aligné des joueurs trop âgés samedi lors de la défaite 1-0 de son équipe en qualification pour le tournoi de football des JO 2016. Les joueurs alignés dans ces rencontres doivent être nés après le 1er janvier 1993, ce qui n'était pas le cas pour certains Ghanéens selon Leroy. Ce n'est pas juste, le Congo respecte les règles et pas le Ghana. J'ai entraîné quelques-uns des Ghanéens il y a 7 ans pour les qualifications pour le championnat d'Afrique des Nations contre le Niger. Ils n'ont pas moins de 23 ans, a dénoncé le Français lors d'une conférence de presse à Accra. Ni le sélectionneur ghanéen Malik Jabir, ni les responsables n'ont réagi jusqu'à présent à ces accusations. Le buteur ivoirien Didier Drogba, 37 ans, a annoncé dimanche qu'il quittait Chelsea à la fin de la saison et qu'il entendait jouer encore 1 an au moins dans un autre club avant de prendre sa retraite. « Je veux jouer encore 1 an et pour avoir plus de temps de jeu, je pense qu'il faut que j'aille dans un autre club », a-t-il expliqué avant le match de Premier League contre Sunderland, qui sera son dernier à Stamford Bridge, avec le brassard de capitaine de surcroît. Et ici aux États-Unis, en NBA, Cleveland a pris un avantage sans doute décisif dans la finale de conférence Est face à Atlanta, en remportant dans la douleur, oui, une troisième victoire consécutive, 114-111, en prolongation hier. Les Cavaliers peuvent se qualifier dès mardi pour leur première finale NBA depuis 2007, la deuxième de leur histoire, s'ils remportent le match numéro 4, toujours dans leur salle. Toujours privé de Kyrie Irving, Cleveland a souffert jusqu'au bout face à des Hawks accrocheurs. Kyrie Irving est blessé au genou, comme vous le savez. Atlanta, sans leur meilleur shooter à 3 points, Kyle Korver, blessé à une cheville et indisponible jusqu'à la saison prochaine, a pris le meilleur départ. Les Hawks, meilleure équipe de la saison régulière à l'Est, ont reçu un coup de main bien involontaire de la star de Cleveland, LeBron James, qui a manqué ses neuf premiers tirs et ses trois premiers lancers francs, soit le pire début de match de play-off de sa carrière.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président de la transition burkinabé a rencontré le corps diplomatique accrédité au Faso dans une sorte de dialogue direct sur les prochaines élections. Nos menus de cette rencontre, le code électoral dont le volet exclusion vient de faire l'objet de discussions au sommet des chefs d'État de la CDAO au Ghana. De Ouagadougou, notre correspondant Zoumana Wonogo.
C'est avec ses casquettes de président de la transition et ministre des Affaires étrangères que Michel Kafando a planté le décor basé sur le nouveau code électoral qui a fait l'objet du débat au sommet des chefs d'État de la CDAO à Accra au Ghana. On écoute le président Michel Kafando.
Nous avons adopté le code électoral, vraiment qui a suscité beaucoup, beaucoup de controverses et de difficultés. Lorsque vous avez affaire à un changement de cette nature, c'est une rupture insurrectionnelle, il vous est difficile de ne pas tenir compte de la volonté de ce peuple qui s'est mis en insurrection pour demander un changement. C'est vraiment difficile. Dans l'histoire, quand la révolution est passée, on n'a plus rien vu. Mais nous, la révolution est passée, il y a eu ce code électoral. Mais nous avons eu la sagesse de faire comprendre que nous pouvons mettre de côté certains dignitaires de l'ancien régime qui ont poussé à bout pour l'adoption de ce fameux article 37 qui devait proroger le pouvoir de l'ancien président. Tout cela, ils n'ont pas eu la sagesse de comprendre qu'il faut respecter le peuple. Bon, il est difficile que ces personnes-là, allègrement, reviennent dire « bon ». Parce que nous sommes libres, nous allons encore aller aux élections avec les autres. C'est du point de vue logique et de la justice, je pense que vous devez comprendre cela. Le CDP, parti de l'ancienne majorité, est libre de ce mouvement. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on puisse au moins accepter que nous avons été tolérants. En tous les cas, je vais simplement vous dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à promouvoir le dialogue.
En réponse à l'introduction faite par le président de la transition, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Tchad, son Excellence Mbatna Badjanga, a dit ceci.
Je ne trahirai pas ici mes collègues dans le pays, par ailleurs membres du groupe de soutien de la transition au Burkina Faso pour la plupart, en vous assurant du soutien moral, politique et financier de nos pays respectifs et leur disponibilité à vous accompagner afin de mener à terme cette étape cruciale qui est l'organisation des élections devant permettre la mise en place des institutions définitives issues des élections.
Dans l'organisation pratique de la rencontre, les journalistes ne sont pas autorisés à assister aux échanges. Il faut donc faire le pied de grue. C'est ainsi qu'à la fin de la rencontre, nous avons accosté l'ambassadeur des États-Unis pour avoir la température dans la salle. Est-ce que c'était chaud ? Tulinabo Mushengi.
La chaleur humaine ou la chaleur climatique? Nous sommes des humains, donc quand il y a un groupe d'humains qui se ressemblent, il y a toujours la chaleur humaine. Et c'est comme ça que dans des échanges, il y a toujours une chaleur contaminante qui est dans la salle. Mais c'était des échanges assez fructueux. Le principal point, c'est la situation politique ici, l'insécurité au niveau du pays, au niveau de la région. Et bien sûr, la question du code électoral aussi a été posée. Mais l'idée de base, c'est que le dialogue continue. Le dialogue entre différents acteurs, que ce soit acteurs nationaux ou acteurs internationaux. Et à la fin, je suis sûr qu'avec le dialogue, on peut trouver des solutions.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
« Au Mali, face au drame des migrants en Méditerranée et au naufrage des embarcations de fortune, le gouvernement malien vient d'adopter une politique axée sur la création d'emplois pour les jeunes dans les zones de départ. Déjà plusieurs rescapés sont de retour à Bamako après avoir été sauvés pour la plupart par des pêcheurs tunisiens. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Si les Européens chassent les passeurs et autres intermédiaires des candidats à l'immigration clandestine, les jeunes ont ouvert une nouvelle porte. À partir de l'Algérie, ils essayent de rentrer par la Tunisie pour gagner l'Europe. Certains rescapés de cette nouvelle aventure sont de retour à Bamako après avoir échoué. Moussa Mariko, dit parisien, rescapé.
Il y a une ville à côté de Tripoli qu'on appelle Zahara. On a décollé là-bas 6h du matin le 24 avril 2015. Bon, 6h, on devait rentrer en Italie, au bout de 7h du temps, ils ont fait embarquement à 6h du matin. 11h après, le soleil était trop tôt et puis ça a passé notre zodiac. Ça a commencé, voilà, ça a pété, puis ça a commencé à se dégonfler. Après, maintenant, on a vu les pêcheurs tunisiens et on les a demandé au secours. Puis ils ont venu au secours des gens et nous a sauvé, dit merci, puis il n'y avait pas de morts.
Ils étaient 90 personnes, 9 nationalités, tous des Africains. Et plus de la moitié étaient des jeunes Maliens. C'est leur bateau qui a écrasé sur la mer vers le côté tunisien. Alors que chacun d'eux avait payé au passeur 1000 euros. Moussa Mariko, dit parisien.
Bon, à peu près 1000 dollars. Mais ça vaut 500 000 francs CFA. Il y en a qui payent ça, bon, il y en a qui ne vaut pas ça. Il y en a aussi plus que ça. Parce que c'est au niveau du temps. Mais lorsque tu discutes avec les coaxiens, bon, si vous tombez d'accord, n'importe quelle somme, et puis ça fonctionne, c'est ça que vous travaillez. Lorsque tu leur donnes l'argent, quand tu fais premier essai, si ça échoue, tu fais deuxième essai. Si ça échoue, tu fais troisième échec. Voilà, allez, compte. Si ça échoue maintenant, c'est fini. Bon, on a fait qu'une seule fois. Là, bon, on ne sait pas s'il va nous rendre. Ou pas.
Amadou Kanté fait partie des rescapés. Pour lui, ils n'ont pas eu de la chance, sans quoi leur départ a été une réussite.
Le départ était bon, mais on a eu un problème, le bateau a cassé. Mais alhamdoulilah, on a eu les pêcheurs qui nous ont sauvés. On a fait comme 2 jours avec ces gens-là. Et ils travaillent après, ils nous ont amenés en Tunisie. Il y a des gens ici, eux, ils travaillent avec le coxeur qui sont là-bas. Le coxeur, lui, il est à Tripoli. Mais donc aussi, avant de quitter, tu l'appelles, le transport que tu dois le payer. Donc tu laisses ça ici. Pour, en même temps, toi, tu prends le voie d'aller là-bas.
Face à cette situation, le gouvernement malien vient de se doter d'une politique de migration qui s'articule autour de 8 points essentiels, avec en toile de fond la création de l'emploi pour les candidats à l'immigration dans leur zone de départ. Abdramane Sila, ministre des Maliens de l'Extérieur.
Cette volonté politique se traduit par des objectifs ci-dessous. Créer des emplois dans les principales zones d'immigration du pays afin de fixer la population sur leur terroir d'origine. Mieux connaître la réalité des flux migratoires afin de lutter efficacement contre les migrations irrégulières.
Les jeunes de Yélémané ont rejeté la politique de migration du gouvernement. Selon eux, le document proposé par le gouvernement n'est que la réponse de l'Union européenne pour les empêcher d'aller en Europe. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Guinée, le virus Ebola a fait de nouvelles victimes à Conakry et à Doubreka, situées à moins de 50 km de la capitale. Mais malgré de nouveaux foyers dans la zone côtière, les services sanitaires parlent d'une tendance à la baisse. Reportage de notre correspondant Zakaria Camara.
La campagne de recherche active doit se poursuivre jusqu'au mois de juin, mais elle semble faire des effets car le nombre de personnes contaminées a baissé, confie le coordinateur national de lutte contre Ebola. Pour le docteur Sakoba Keïta, seules quelques localités de la zone côtière restent des cibles dans la lutte contre la maladie.
En Guinée, actuellement, la situation épidémiologique a tendance vers la baisse. Malheureusement, on a eu 2 cas positifs dans la préfecture de Doubreka. La préfecture de Forêt-Kariya, qui constituait beaucoup de soucis pour nous, a déjà fait 2 jours sans enregistrer de nouveaux cas suite à cette campagne de recherche active qui doit se poursuivre jusqu'à fin juin. Nous sommes en train de rassembler tous nos moyens à Doubreka et à Boké, où nous avons de nouveaux foyers.
De nouveaux foyers dont les malades sont repartis entre les centres de traitement de Conakry et celui de Koya à 50 km de la capitale. Au total, 22 malades sont hospitalisés, 13 cas sont confirmés au virus Ebola et 9 autres sont des suspects qui pourraient sortir des centres de traitement si les résultats d'analyse étaient négatifs, comme ce fut le cas des 1200 guéris d'Ebola depuis le début de l'épidémie. Ces personnes courent-elles des risques pour elles et pour leur famille? Le docteur Sakoba répond.
Pour le moment, on n'a eu personne en Guinée qui a présenté des symptômes secondaires suite à la déclaration de guérison de ces malades. C'est vrai qu'on a eu deux cas d'infection, une à Conakry et une autre à Masanta. Des personnes qu'on suspectait d'être contaminées par des relations sexuelles et non protégées. Vous savez, on a une dame qui est hospitalisée à Kindia, qui a pratiquement à son 29e jour, elle a perdu son enfant suite à Ebola. Mais jusqu'à présent, le virus persiste dans son lait s'il n'a plus de symptômes.
Ebola, enfin, et en chiffres, plus de 3500 cas sont enregistrés en Guinée depuis le début et 2700 décès. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le Cameroun, un pays, deux langues officielles, le français et l'anglais, deux systèmes juridiques suivant les régions où ces langues sont parlées, certains avocats camerounais croient que ce dualisme pourrait avoir des conséquences très négatives pour l'appareil judiciaire. Un reportage du correspondant de la VOA, Moki Edwin Kinzeka, présenté par Chérubin Dorsil.
Le système juridique du Cameroun, comme pour la plupart des pays africains, est enraciné dans son passé colonial. Le système de droit coutumier hérité de maîtres coloniaux anglais est pratiqué dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Le système de droit civil hérité de maîtres coloniaux français est pratiqué dans les 8 autres régions qui sont de langue française. Selon l'éducateur Georges Tombé du ministère camerounais de l'enseignement supérieur, avoir deux systèmes juridiques différents dans le pays crée des problèmes, en particulier parce que les avocats qui ne peuvent pas parler l'une des langues officielles ou sont formés dans un seul des systèmes juridiques sont parfois appelés à plaider en terrain juridique et linguistique inconnu. À ce niveau, revenons à la loi pour voir où se situent les problèmes. Travailler dans deux domaines différents signifie que nous sommes en voie de désintégration. Les bénéficiaires sont ceux qui vont avoir des problèmes. Ils vont beaucoup souffrir. Si nous avançons vers l'intégration nationale, nous ne devrions pas avoir une loi qui varie d'une région du pays à une autre. L'avocat Nico Halley, président de l'Assemblée générale du Conseil du barreau du Cameroun, affirme que les avocats anglophones ont commencé à réclamer des réformes lorsque les avocats francophones ont été transférés aux tribunaux dans la partie anglophone du pays. Nous parlons, dit-il, de tribunaux où les plaideurs sont censés suivre les présentations, ce qu'ils voient, ce qui se dit, même ce qui est écrit, afin que le procès, en fin de compte, soit équitable. À la sortie du tribunal, si on a perdu le cas, on connaît les faits. Si on a gagné, on sait pourquoi on a gagné. Donc, si on sort sans savoir ce qui s'est vraiment passé, il ne peut y avoir de procès équitable. Et quand il n'y a pas de procès équitable, vous ne pouvez pas parler de justice, dit l'avocat. De l'avis du sociologue Victor Obi, lorsque le Cameroun harmonisera les deux systèmes juridiques, les citoyens seront assurés de procès équitables et la minorité anglophone qui constitue 20% de la population ne se sentira plus marginalisée. Il propose que l'on examine le droit français et le droit anglais et que l'on élimine les éléments négatifs eu égard aux réalités camerounaises. Il faut, selon Victor Obi, une sorte de combinaison entre les deux systèmes, ce qui fera ressortir le caractère unique du droit camerounais. Mais l'avocat Nico Halley simplifie. Dans l'intervalle, dit-il, le français ne devrait pas être employé par les juges et les magistrats dans les zones anglophones, ni l'anglais dans les parties francophones du Cameroun.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! If your lips are moving, then la la la.
be replaced. Nah, I come from outer space. And I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new.
You can buy me diamond earrings and
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique sur la voie de l'Amérique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Arnold Woodson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la voie de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.